France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
L'annonce faite à Marie de Paul Claudel devient un opéra contemporain. La metteuse en scène Célie Pote et le compositeur Philippe Leroux seront mes invités à partir de 13h. Et comme promis, comme prévu, on commence par la critique cinéma. Parmi la quinzaine de films qui sortent aujourd'hui, on en a choisi deux. Dreams du Mexicain Michel Franco et La Reconquista de l'Espagnol Jonas Trueba. Vous écoutez les midis de culture, les absents ont toujours tort. Et voici les critiques du jour. Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du Cinéma. Bonjour.
Bonjour.
Antoine Léris, critique et journaliste. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux.
Is he in your program?
No.
Where'd you learn how to dance?
In Mexico.
You beg for money on the street down there too?
We met, right? The ballet teacher.
Look, you know I want you to be happy, but there are limits. You know what I'm trying to say.
I came here to be with you, and I just don't want to be hiding all the time.
We're leaving.
You're ashamed to be seen with me?
I didn't think you cared what happens to me.
I'm gonna tell you something. Then you decide whether or not we stay together. You tell me if you want me to come back here after. No!
Et on commence avec Dreams, le nouveau film du réalisateur mexicain Michel Franco. Après Memory, il y a 2 ans, il donne à nouveau le rôle titre à Jessica Chastain, également productrice du film. Elle y incarne une richissime héritière américaine qui, dans ses œuvres philanthropiques, soutient une école de danse au Mexique. Un des danseurs, Fernando, devient son amant et rêve d'une vie meilleure aux États-Unis. Forcément, un migrant mexicain dans les beaux appartements de San Francisco, ça n'est pas sans poser problème. Dreams est le 9e long-métrage de Michel Franco qu'on avait découvert en Europe avec Después de Lucia, pris un certain regard à Cannes en 2012. On commence avec quelques mots d'abord, Antoine Léris.
C'est un film de Michel Franco, donc c'est très beau, c'est un peu dogmatique, c'est parfois un petit peu ennuyeux, mais je trouve que la qualité de ce film, c'est ce qui reste après que la lumière se soit faite dans la salle. Et moi, il m'est resté quand même pas mal de choses de cette histoire.
Charlotte Garçon.
Oui, alors effectivement, il y a un côté presque fascinant dans dans le soin et la précision apportée à l'image notamment. On en reparlera, mais à mon avis, c'est une fable politique qui échoue parce qu'elle ne fait pas confiance au mélodrame.
Alors Antoine Léris, on a insisté tout de suite sur la beauté. Alors en quoi elle réside cette beauté ?
Alors c'est vraiment un film sur les corps dans toutes les dimensions que ça peut avoir. C'est-à-dire que c'est donc le destin d'un danseur de ballet qui passe la frontière. Donc le film s'ouvre avec un camion d'abord au bord d'une autoroute en plein jour et puis la nuit on entend les cris. Et là encore il est question de corps, les corps qui s'enfuient de ce camion-là. Lui fait le chemin jusqu'à San Francisco et va essayer d'exercer son art dans la rue, puis au sein d'un ballet. Il est question des corps à tout moment parce que la relation entre Jessica Chastain et ce danseur, c'est une relation, on pourrait dire, amoureuse, mais qui est surtout une relation de désir. Il y a quelque chose qui se passe entre eux, qui est de l'ordre de l'instinct primaire, et moins de la construction amoureuse ou du couple, comme on pourrait le voir. Il est question de corps parce que j'ai l'impression que le film met tout le temps en parallèle le corps infertile de l'Amérique, ce corps vieilli, un peu rabougri sur lui-même, puisque Jessica Chastain ne peut pas avoir d'enfant, ça fait partie du personnage, et le corps indocile, gracieux, musculeux, plus jeune du Mexique à côté. Et ce que je trouve très beau, c'est que le film entre en résonance avec l'actualité, ce qui se passe en ce moment à Minneapolis, autour de la police de l'immigration de Trump, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il part de ce principe de départ qui est qu'il existe un désir justement entre ces deux corps-là. Au lieu de partir du rejet, au lieu de partir des normes, il part de ce désir-là et je trouve que c'est vraiment la qualité première du film.
Charlotte Garçon.
Oui, je suis d'accord que la friction entre les classes sociales avoir entre des antagonistes politiques, c'est toujours très fécond au cinéma. Ça peut être comique d'ailleurs. Mais en l'occurrence, il me semble que le film ne fait pas assez confiance dans l'amour qu'il filme. Alors je suis d'accord qu'il y a des qualités chorégraphiques. Hein. Il filme les scènes de sexe, notamment comme un ballet. Hein. On est presque un peu frustré de ne pas voir plus de répétitions parce que c'est un vrai danseur et il y a toujours quelque chose de très fascinant. Enfin, on pourrait revoir la danse de Wiseman. On a envie que ça continue.
Isaac Hernandez hein, qui est effectivement danseur à l'American Ballet Theatre. Ouais.
Et donc, tout naturellement, quand ils font l'amour, voilà, elle aussi a une gestuelle très chorégraphié, et ça ne paraît pas si artificiel que ça. C'est stylisé, mais voilà, on est... Moi, en tout cas, je trouve que le pacte de mise en scène nous entraîne là-dedans. Alors, j'ai lu que c'est elle-même, Jessica Chastain, qui avait apporté les vêtements, etc., à son personnage, tout ça, et donc elle est entièrement presque en blanc, tout le temps en blanc, de manière très lisse, etc. C'est presque un emploi, d'une certaine façon, c'est-à-dire l'héritière blanche, à la peau très claire, etc. Bon, le problème de tout ça, moi, là-dedans, c'est que je suis d'accord que le début est à la fois assez prometteur, parce qu'on parle de passage de frontières, il y aura la question de la déportation. Quel film, aujourd'hui, réfléchit là-dessus? Quel film montre une déportation, hein? On va en voir une au cours du film, et le rôle, notamment, des autorités mexicaines tout à fait coupables, voilà, va traverser le film. Donc, il y a une visée politique. C'est évident que le film, il n'est pas éthéré. Il n'est pas uniquement autour de cette chorégraphie du désir entre deux personnes. Et moi, ce que je lui reproche, c'est qu'en fait, s'il avait justement construit un amour, un vrai amour, c'est-à-dire s'il avait vraiment cru en la possibilité de ces deux-là de s'aimer, il aurait fait confiance en la capacité critique et même politique du mélodrame. C'est-à-dire du mélodrame vraiment comme genre, quoi. Or là, il me semble qu'il essaye un peu de jouer sur tous les tableaux et surtout, on ne peut pas divulguer un moment de bascule, un point de bascule violent, mais qui, pour moi, relève un peu de la saloperie morale que j'ai vue à l'œuvre assez souvent dans les films de Michel Franco, et qui, finalement, quand j'y pense, ce début avec un camion plein de migrants clandestins qui sont en train de mourir, hein, parce qu'ils n'ont plus d'air, au fond, moi, ça me dégoûte, dans le sens où j'ai l'impression que c'est son idée de la mise en scène. La mise en scène, c'est un piège, et on est là pour... pour sadiser, passe pas les personnages, mais le spectateur. Ça fait penser à Michael Haneke, bien sûr. Voilà, d'intentions politiques, finalement, on construit un piège, je dirais, plus pour les personnages et spectateurs que véritablement quelque chose de... Enfin, une recherche, parce que... En fait, faire de la politique, on pourrait dire, c'est chercher une issue, malgré tout. Et il me semble pas que le film la cherche. Il montre au contraire quelque chose de très... une sorte de déterminisme sociologique. Mais Antoine ne sera peut-être pas d'accord.
Justement, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment une des limites du film. Et notamment, on parlait de la mise en scène de Michel Franco, de son désir de faire du Michel Franco, hein, notamment à la fin, ce dont parlait Charlotte, c'est-à-dire de tendre l'arc au maximum jusqu'au moment où la flèche sera décoché comme presque par surprise et que toute l'histoire résonnera différemment. Moi, ce que je lisais la critique dans Libération ce matin qui disait c'est un film de Jessica Chastain. C'est Camille Nevers qui disait ça. Et je suis assez d'accord. Il y a une forme de partage de la réalisation entre Michel Franco et Jessica Chastain qui fait qu'on a ce sentiment quand même étrange avec ce film. D'abord très froid. Il y a quelque chose de chez Jessica Chastain qui comme ça qui absorbe la lumière, qui absorbe la chaleur, qui quelque part la fait presque disparaître de l'écran, et je trouve qu'il y a cette dimension de relation à trois assez étrange qui moi me met un peu mal à l'aise, où on sent le réalisateur et sa star regarder le danseur comme une forme de personnage un peu folklorique et qui dont il pourrait user et abuser exactement comme le disait Charlotte. Il y a cette dimension de manipulation tout au long du film. Et qu'on ressent en plus en tant que spectateur, dans le sens où le réalisateur et l'actrice seraient un peu complices de cette manipulation-là. Et c'est là où Michel Franco nous met mal à l'aise, mais ensuite, effectivement, il n'offre pas d'issue, si ce n'est une issue désespérée. Mais c'est peut-être en même temps quelque chose qui correspond à la réalité de notre époque. Et c'est Et c'est clairement son intention aussi de montrer ce qu'il y a dans ce regard qui désire chez Jessica Chastain, quelque chose de manipulatoire, quelque chose de l'appropriation. Puisqu'on ne sait pas si c'est un désir vrai, profond, on ne sait pas si c'est la possibilité d'un amour. On sait simplement qu'il y a ce besoin chez elle de se confronter à ce corps-là.
Sur votre garçon.
Oui, mais je pense que justement, c'est là le problème, c'est-à-dire le fait de montrer ce désir comme étant finalement purement une appropriation et non pas la possibilité réelle d'un amour. Pour moi, est une sorte de faille morale dans laquelle le film est, par laquelle le film est complètement siphonné d'une certaine façon. Et je suis entièrement d'accord sur le fait de dire que quand un film de Michel Franco est en fait aussi un film de Jessica Chastain, dans un premier temps, on se dit « Youpi, c'est la fin de la politique des auteurs, y en a marre, vive les actrices empowered, etc. » Et puis quand on réfléchit en fait au film, le problème, c'est que son personnage héritière qui gère tout, eh bien, effectivement, fait complètement basculer le point de vue. Donc, lui, c'est un cinéaste mexicain, avec toute la politique voilà, anti-trumpiste qu'il peut y avoir derrière. Elle, je suis sûre qu'elle n'a pas de mauvaises intentions politiques, mais en réalité, c'est très problématique de ne pas réussir à partager le point de vue et de continuer à nous entraîner, nous, spectateurs, dans ce point de vue uniquement du personnage principal. Ça a beau être une femme, ça a beau être une grande actrice, c'est un problème.
Vous disiez au début de l'émission, Charles Garçon, que vous n'étiez pas étonné du tour que vous joue Michel Franco. Comment vous situeriez ce film par rapport aux autres longs-métrages?
Alors, je ne les ai pas tous vus, ouais, parce que en général, quand j'en voyais un, je me disais, bon, bah, le prochain, je vais peut-être faire une petite pause.
Ça fait 1/2.
Pas. Voilà, ouais. 1/2. Mais c'est très souvent... je dirais des situations piégeantes comme ça, où en tant que spectateur, on est à la fois obligé de participer à la dégueulasserie ambiante, mais en même temps, les personnages sont souvent des victimes. Donc, je comprends bien que le but pour lui, c'est de créer ce malaise et que sans doute, il y a une vertu politique à déranger son spectateur. Mais en réalité, je pense que ça ne fonctionne pas comme ça, la fiction et le cinéma, en fait. C'est à la fois plus simple, mais plus complexe, les processus d'identification et de réflexion qu'on peut voir par rapport à simplement une histoire. Parce que là, c'est quand même une histoire. Alors, pas d'amour peut-être, mais en tout cas de désir. Voilà. Et ça, je trouve ça dommage de se focaliser sur, finalement, ce couple qui est censé être métaphorique entre l'Amérique et le Mexique, mais qui nous perd presque dans la psychologie. Ça aussi, c'est un autre problème. Alors que ce qui manque, en fait, parce que qui dit politique dit collectif. Et en fait, le film commence par un type qui traverse la frontière, mais tout seul. Il n'est pas avec le groupe. Et finalement, on n'a jamais le sentiment que tout ça, c'est une affaire collective, que la politique, c'est collectif, que les mouvements de résistance, c'est collectif, etc. Je trouve ça aussi dommage de ce point de vue-là.
Ouais, tout dernier mot.
Non, en fait, c'est un film. À la fin de la séance, on se sent libéré du film. Et par rapport à l'autre film dont on va parler après, c'est exactement l'inverse. Je trouve ça aussi intéressant qu'il soit dans la même émission, parce que dans l'autre, on a envie de continuer à vivre le plus longtemps possible.
Dreams de Michel Franco. Avant de continuer la critique, c'est d'abord l'heure du coup de cœur de Charlotte Garçon.
Ah oui.
Et oui, elle avait oublié.
Alors, c'est la vie après Siam de Namir Abdelmesseh, dont je me souvenais parce que il y a plus de 10 ans, il y a une quinzaine d'années, j'avais vu son premier long métrage, La Vierge, les Coptes et moi. Et c'est un très étrange cinéaste qui a une cinquantaine d'années et qui n'arrête pas de filmer sa famille. Mais au point où on a l'impression qu'il les harcèle, hein, ses enfants qui ont 5-6 ans lui claquent la porte au nez parce qu'il veut pas qu'il les filme. Donc, il a filmé ses parents et ce film-ci, La vie après Siam, c'est sa mère. Et donc, dans la dizaine d'années, voire plus, qui s'est écoulée depuis son dernier film, et ben, sa mère est morte, tout simplement, en 2015. Sauf que c'est pas du tout simple pour lui et que tout le film est un collage, alors très comme une sorte de scrapbook filmique, notamment avec des extraits de mélodrames, de grands mélodrames de femmes, de women's pictures égyptiens, puisque puisqu'il est d'origine égyptienne et ses parents sont égyptiens, de Youssef Chahine. Et donc, voilà, on a l'impression que toute cette matière, ces archives de films, de quand il a filmé ses parents, tout ça lui sert à faire son deuil, d'une certaine façon, et qu'il malaxe tout ça, et qu'il en arrive à un film finalement très court, 1h15, très délicat, qui n'est pas seulement un hommage à sa mère, qui est aussi quelque chose de tourné vers un film impossible, puisqu'il devait faire, il s'était promis de refaire un film ensemble. Et j'ai trouvé ça à la fois très beau et à la fois un peu triste. On a l'impression qu'il ne fera jamais de film, qu'il continue à filmer sa famille, mais qu'au fond, il n'atteindra jamais la fiction. Mais j'ai trouvé ça très beau. Donc, La vie après Siam de Namir Abdel Messeh.
C'est noté.
Nada más vernos me entregó una carta que yo le había escrito a ella con 15 años.
¿Ya os habéis liado?
Otras veces no te he llamado porque no sabía si iba a ser demasiado raro.
La película que voy montando en mi cabeza eres bastante feliz.
Es que yo no sé bailar. No me gusta.
La Reconquista est à l'affiche ce mercredi, mais dans son pays d'origine, l'Espagne, ce film est sorti en 2016. C'est donc l'occasion de voir un film de jeunesse du réalisateur Jonas Trueba et de retrouver deux de ses fidèles acteurs, Itsaso Arana et Francesco Carril. Ils incarnent à l'écran Manuela et Olmo, deux trentenaires qui se retrouvent 15 ans après leur histoire adolescente. Elle vit en Argentine, lui, il est en couple, et ils vont passer tous les deux quelques heures ensemble dans l'hiver de Madrid. Charlotte Garçon, d'abord quelques mots.
Oui, alors comme ça s'appelle La Reconquista, on peut croire qu'il s'agit d'une reconquête. C'est un peu plus compliqué que ça.
Oui, puis c'est quand même un événement historique beaucoup plus lourd en Espagne, La Reconquista.
Oui, non, alors là, ce serait une fausse piste totale. Mais j'ai vraiment aimé, effectivement, la même base que le film de Michel Franco, un mélodrame, mais étouffé, complètement minimal, sur ses retrouvailles et qui nous font sentir le passage du temps. Et j'allais dire presque comment le temps passe sur nous, mais alors à la manière d'un rouleau compresseur.
Antoine Léris.
Et d'une manière cyclique. Aussi, et je trouve que c'est ça le génie de ce film. Je l'ai vu hier soir en présence de Jonas Trueba. Je suis encore dedans. Ouais. Ça m'a bouleversé. J'ai trouvé ça absolument magnifique. C'est une comédie romantique avec tout ce que ça peut avoir de positif dans ma voix. Il joue avec ces codes-là pour donner un film entre Romer et Moretti qui est absolument merveilleux.
Charlotte Garçon.
Oui, comédie romantique, où on pourrait croire au début comédie de remariage, puisque Itsaso Arana, dont c'est le premier film avec Jonas Trueba, en fait, le fait que ce soit un film de 2016 ne change pas grand-chose. Il n'est pas très daté temporellement, mais en tout cas, c'est la première fois qu'elle jouait avec lui. Si vous l'avez vu dans Eva en août ou dans Septembre sans attendre, voilà, c'est une très très grande comédienne qui est aussi réalisatrice. Et quand elle arrive comme ça pour le jour, le rendez-vous des retrouvailles, elle sait quand même très apprêté, je trouve, court vêtu, alors qu'il a l'air de faire froid dans le parc où il se retrouve. Et on se dit, bon, on a compris, ça va, voilà, quelque chose va se passer entre eux. Et en fait, c'est évidemment un temps qui va être complètement déplié, mais très calmement, comme on ouvre une sorte d'origami. Et la soirée arrive, la nuit arrive, mais c'est pas du tout l'enfièvrement du désir qui va les prendre. Ils vont beaucoup se parler. Et si on a vu d'autres films de Trueba, on sait que la parole, c'est de l'action. Hein, mais ça, c'est comme chez Romer. Là, pour le coup, la comparaison avec Éric Romer, c'est que les dialogues, c'est ça, l'action. Donc, effectivement, là, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est la façon dont on avance vers une sorte de flashback qui n'en est pas un, mais de manière tout à fait étonnante. Et que ce film fait finalement penser moins à l'amour passé, l'amour qui aurait pu arriver, enfin toute cette mélancolie amoureuse, qu'à peut-être à 30 ans, la possibilité de grandir et de devenir adulte.
Mmh. Antoine Léris.
Effectivement, le titre est une fausse piste, puisqu'on a l'impression que c'est exactement l'inverse qui va se dérouler pendant le film, qui aurait pu s'appeler exactement l'inverse de la reconquête. Le laisser aller, le laisser partir.
Le renoncement.
Le renoncement, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de délicatesse dans le cinéma de Jonas Trueba, dans sa manière de faire émerger les émotions, de les laisser advenir. Ce que disait Charlotte sur le temps dans ce film est vraiment hyper intéressant. C'est au cœur de ce film-là, puisqu'on a le sentiment au départ qu'il va y avoir une unité de temps, c'est-à-dire que ce sera en fait une nuit. Une nuit où ils vont passer d'abord d'un restaurant chinois quelconque, où elle lui dit quand même cette phrase « on préfère penser qu'une histoire n'est pas vraiment finie ». Quand même pour ouvrir un petit peu de suspense et sur la dimension comédie romantique, puis ensuite de bar en bar, un concert qui est un moment absolument magique avec un chanteur Raphaël Berriot que j'ai découvert à cette occasion, qui est une sorte de Tom Waits du Pays Basque. Et il nous emmène jusqu'à cette scène pratiquement calquée sur une scène d'un film de Nanni Moretti sur un scooter dans les rues de Madrid. Et à partir de là, un autre film commence. Et ça, moi, j'avoue que j'ai trouvé ça absolument merveilleux parce que on aurait pu se dire c'est un film naturaliste comme il y en a beaucoup. Mais non, c'est pas ça. C'est un film qui montre que la vie tourne en rond, quelque part. Puisque à partir de ce moment où le temps va se déformer, on ne sait pas exactement où on est, on le pressent, mais on sent que ça va être peut-être quelque chose qui est du domaine du rêve aussi, puisqu'il s'endort au moment où cette séquence démarre. Il faut pas la dévoiler trop, parce que ça fait vraiment partie du plaisir du film. Mais je trouve que là réside le génie, là réside vraiment la différence entre un très beau film où les émotions affleurent, et non seulement un très beau film où les émotions affleurent, mais où quelque chose reste profondément en nous. Quelque chose qui nous parle directement. Ce moment de rêve où on s'imagine les vies qu'on aurait pu vivre.
Charlotte Garçon.
Oui, et d'ailleurs, il n'y a de mélodrame que quand il y a la possibilité de se remémorer. Et c'est ce qui se passe, mais aussi pour nous. C'est ça que je trouve beau, c'est qu'on se projette complètement moins dans tel ou tel personnage, tel ou tel acteur ou actrice, que dans ce rapport au temps, que dans son rapport au temps, et dans la façon dont il... Et son rapport au corps aussi, parce que il y a deux séquences quasiment en temps réel, ou en tout cas qui nous font sentir le déroulement. La première, c'est celle dont parlait Antoine, la chanson. Quand même, le rock basque, c'est rare de l'entendre, mais c'est aussi une chanson à texte. Et en fait, on voit les deux anciens amants de jeunesse écouter ce concert et écouter les paroles. Et c'est une chanson qu'ils ont déjà entendue, puisque le chanteur est le père de la jeune fille. De la jeune femme. Donc ça, c'est un premier moment où la chanson, tout à coup, c'est pas une comédie musicale, mais la chanson fait vraiment avancer l'action amoureuse.
Elle est au cœur du film, ouais.
Voilà, d'une certaine façon. Mais il y a aussi un autre moment complètement fou où ils vont au bal. J'allais dire, c'est un club de swing, un cours de swing, mais bon, j'appelle ça un bal. Et où ce type qui n'ose pas danser, qui ne danse jamais, qui est très timide, tout à coup, il se met à danser. Et on se dit, voilà, ils vont finir au lit ensemble parce qu'il va se libérer physiquement. Bon, le truc classique. Et en fait, non, on voit qu'il se libère, lui, physiquement, mais dans son propre rapport à son corps. Et qu'il a une sorte de transe. Sauf que ça n'a, au fond, pas grand-chose à voir avec les retrouvailles avec cette jeune femme. Et que c'est autre chose. C'est comme une sortie de l'enfance.
Et il faut le dire aussi, point commun avec la comédie romantique, que cet homme est en couple avec une femme qui l'annonce dès le départ. Et donc, on sait que, normalement, selon les règles et selon les normes, cette histoire même d'une soirée est impossible.
Sur la caméra de Jonas Trueba, sa façon de filmer.
Il y a quelque chose de, moi je trouve, de très délicat qui laisse réellement le temps aux acteurs de s'exprimer. J'ai eu la chance donc d'avoir une avant-première avec Jonas Trueba et son actrice. Ce rôle-là a été écrit par Jonas Trueba et elle s'y est mise dedans. Elle l'a presque réécrit, mais par la suite, ensemble, ils coécrivent les scénarios et
oui,
c'est même
dit,
une écriture
nous,
collégiale, drôle, exactement, toujours, voilà. Avec ses producteurs. Et en fait, ça se sent. Là où Michel Franco enfermait les gens dans des cases, dans des stéréotypes, parce qu'il en a besoin pour faire avancer son histoire, Jonas Trueba les laisse absolument libres d'être qui ils sont. Et c'est ce que disait Charlotte dans l'identification. En fait, c'est ça qui fait la force absolument de ce film. C'est-à-dire qu'effectivement, il est pas question de lui dans telle situation professionnelle ou à tel âge dans tel quartier de Madrid. En fait, il est question simplement de l'amour. Est-ce que ça finit un jour? Est-ce que quand on a aimé quelqu'un, il existe un jour où on ne l'aimera plus? Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et les acteurs peuvent le porter justement parce qu'ils sont laissés libres, quand bien même les dialogues sont très écrits. Et c'est là où on voit tout le talent de Jonas Trueba. C'est-à-dire de réussir à faire des scènes extérieures qui nous libèrent absolument de simplement la relation entre ces deux personnages qui font exister le lieu, qui font exister le temps. Et en même temps, de réussir à donner une dimension parfois dramatique et enfin une véritable tension dans les scènes d'intérieur où les personnages sont face à face.
Charlotte Garçon.
Oui, c'est un classique. Classicisme littéraire, on pourrait dire, et qui passe notamment par le rôle majeur que joue une lettre. Elle apporte, elle, à leur retrouvaille, une lettre de lui quand il avait 15 ans, et elle lui demande de la lire, et lui va essayer de louvoyer, de contourner, alors surtout que quand il la lit, il annonce, c'est horrible. Elle lui dit, tu as un ton pourri, évidemment, si tu la lis comme ça, etc. Et vraiment, on a l'impression d'être dans une pièce classique, quoi. C'est-à-dire que le rôle de la lettre est très important dans ce rapport au feuilleté temporel. C'est une lettre, c'est quelque chose qui à la fois vient du passé, mais quand on se met à la lire au présent, qu'est-ce qu'on incarne ? Est-ce qu'on croit encore à ce qu'on est en train de dire ? Voilà. Tout ça est d'une subtilité étonnante et à l'intérieur d'un médium qui ne fait pas seulement enregistrer tout ça, qui pense évidemment tout ça en termes cinématographiques.
Antoine Léris.
C'est quelqu'un qui filme les mots et qui les filme merveilleusement. Charlotte parlait de cette lettre qui est centrale et qui revient à chaque fois comme une sorte de transition dans le film pour nous permettre de faire avancer l'histoire, quand bien même, on l'a dit, elle n'avance pas d'une manière chronologique classique, cette histoire-là. Et si on veut un exemple de la science de Trueba pour filmer les mots, filmer les rapports humains, il y a cette scène qui est absolument bouleversante quand il rentre de cette soirée et qu'il parle avec sa compagne, puisqu'on l'a dit, il a une compagne. Et je trouve que cette scène-là, elle est psychiatre, elle. Cette scène-là raconte quelque chose de l'intelligence de ce metteur en scène, dans le fait de ne pas enfermer ses personnages, de les laisser exister. Cette psychiatre, elle dégage quelque chose de, je sais pas, de lumineux, de magnifique. Mais il n'est jamais question de concurrence entre les deux. Mmh. Il est simplement question de chemins parallèles, et les chemins qu'on choisit, les chemins qu'on n'a pas choisis, et qu'en fait on laisse coexister dans la même temporalité. Je trouve par exemple cette scène-là absolument bouleversante.
Sur le garçon, un dernier mot.
Oui, alors ça donne envie de voir les autres films.
Voilà, hein,
ouais.
Exactement. Ça tombe bien.
Los Ilusos, mais il y en a aussi d'autres. Les Exilés romantiques, ouais. Très bon.
Mais alors justement, il y a la rétrospective Jonas Trueba, le goût du présent, organisée par le Centre Georges Pompidou, et c'est jusqu'au 10 février au MK2 Bibliothèque. Et puis, le réalisateur espagnol était l'invité d'Antoine Guillot samedi dernier dans Plan Large, sur France Culture, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou sur le site de France Culture. Merci à vous, Charlotte Garçon, Antoine Léris, d'être venu dans
Merci
les
Marie.
Midis de Culture. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Et vous qui nous écoutez, restez avec nous. On revient dans quelques instants.